Chapitre 9. Des conséquences que l'on peut tirer de notre parenté avec Dieu. Si ce que les philosophes ont dit de la parenté de Dieu et des hommes est vrai, que nous reste-t-il quand on nous demande « De quel pays es-tu ?» Si ce n'est de répondre non pas « Je suis d'Athènes ou de Corinthe », mais comme Socrate, « Je suis du monde ». Pourquoi dirais-tu en effet que tu es d'Athènes et non de ce petit coin seulement où ton misérable corps a été jeté quand il est né? N'est-il pas clair que si tu t'appelles Athénien ou Corinthien, c'est que tu tires ton nom d'un milieu plus important, qui contient non seulement ce petit coin et toute ta maison, mais encore cet espace plus large d'où est sortie toute ta famille jusqu'à toi? Pourquoi donc celui qui comprend le gouvernement du monde, celui qui sait que de toutes les familles il n'en est point de plus grande, de plus importante, de plus étendue que celle qui se compose des hommes et de Dieu, et que Dieu a laissé tomber la semence non seulement dans mon père et dans mon grand-père, mais dans tous les êtres qui naissent et croissent sur la terre, et en particulier dans les êtres raisonnables, parce que seuls ils sont de nature à entrer en relation avec Dieu, à qui ils sont unis par la raison, pourquoi celui-là ne dirait-il pas « Je suis du monde » Pourquoi ne dirait-il pas « Je suis fils de Dieu » Et pourquoi craindrait-il rien de ce qui arrive parmi les hommes? La parenté de César ou quelqu'un des puissants de Rome suffit pour nous faire vivre en sûreté, pour nous préserver du mépris, pour nous affranchir de toute crainte, et avoir Dieu pour auteur, pour père et pour protecteur, ne nous affranchirait pas de toute inquiétude, de toute appréhension. Mais de quoi vivrais-je, dit-on, moi qui n'ai rien? Et de quoi vivent les esclaves fugitifs? Sur quoi comptent-ils quand ils se sauvent de chez leur maître? Sur leur terre, sur leurs serviteurs, sur leur vaisselle d'argent? Non, mais sur eux-mêmes, et la nourriture ne leur manque pas. Faudra-t-il donc que le philosophe n'aille par le monde qu'en comptant et se reposant sur les autres? Ne se chargera-t-il pas du soin de lui-même? Sera-t-il au-dessous des animaux sans raison? Sera-t-il plus lâche qu'eux? Car chacun d'eux ne recourt qu'à lui-même, et ne manque pourtant ni de la nourriture qui lui convient, ni des moyens d'existence qui sont appropriés à sa nature. Je crois, moi, que votre vieux maître assis ici ne devrait pas y être occupé à vous rehausser le cœur et à vous empêcher de tenir sur vous-même des propos lâches et indignes, mais à combattre les jeunes gens, s'ils s'en trouvaient de tels, qui, connaissant notre parenté avec les dieux, et en même temps les liens dont nous sommes attachés, ce corps que nous possédons et tout ce qui, grâce à lui, est nécessaire à notre entretien et à notre subsistance pendant toute cette vie, voudraient se débarrasser de tout cela comme d'un fardeau pénible qui est au-dessus de leurs forces et s'en aller vers les dieux, leurs parents. Voilà la lutte que devrait avoir à soutenir celui qui est votre professeur et votre maître, s'il a quelque valeur. Vous viendrez à moi me disant « Épictète, nous en avons assez d'être enchaînés à ce misérable corps, de lui fournir à manger et à boire, de le faire reposer, de le tenir propre et d'être, à cause de lui, les complaisants d'un tel ou d'un tel. N'est-il pas vrai qu'il n'y a là que des choses indifférentes et sans rapport réel avec nous? N'est-il pas vrai que la mort n'est pas un mal, que nous sommes les parents de Dieu et que c'est de lui que nous venons? Laisse-nous retourner d'où nous venons, laisse-nous nous dégager enfin de ces liens qui nous attachent et qui nous chargent. Ici sont des pirates, des voleurs, des juges, des hommes avec le nom de tyrans, qui semblent avoir sur nous quelque pouvoir à cause de ce misérable corps et des choses qu'ils possèdent. Laisse-nous leur montrer qu'ils n'ont sur nous aucun pouvoir. Alors moi, j'aurai à vous dire, ô homme, attendez Dieu, quand il vous aura libéré de ce service, partez alors vers lui, pour le moment résignez-vous à demeurer à la place où il vous a mis. Court est le temps de votre séjour ici, et il est facile à supporter pour ceux qui pensent ainsi. Quel est en effet le tyran, quel est le voleur, quels sont les juges, qui soient encore à redouter pour ceux qui méprisent ainsi leur corps et tout ce qui lui appartient? Voilà ce que le maître devrait avoir à faire avec les jeunes gens d'un heureux naturel. Maintenant, au contraire, qu'arrive-t-il? Cadavre est le maître et cadavre vous êtes. Quand vous vous êtes bien repu aujourd'hui, vous vous asseyez là, pleurant, et vous demandant comment demain vous aurez de quoi manger. Esclave, si tu en as, tu en auras. Si tu n'en as pas, tu partiras. La porte est ouverte. Qu'as-tu à te lamenter? Cela dit, quel motif de pleurer a-t-on encore? Quelle raison de flatter? Pourquoi portera-t-on envie à un autre? Pourquoi s'extasiera-t-on devant les riches? Ou tremblera-t-on devant les puissants, quelque fort ou quelque irascible qu'ils puissent être? Que nous feront-ils en effet? Ce sur quoi ils peuvent faire quelque chose, nous ne nous en inquiétons pas. Ce qui a du prix pour nous, ils ne peuvent rien sur lui. Qui donc commandera à celui qui pense ainsi? Comment Socrate se conduisait-il dans ces circonstances-là? Comment, si ce n'est comme il convenait à un homme convaincu de sa parenté avec les dieux? Si vous me disiez, disait-il au juge, nous te rendrons ta liberté, à la condition de ne plus tenir les discours que tu as tenus jusqu'ici, et de ne plus ennuyer nos jeunes gens ni nos vieillards. Je vous répondrai. Vous êtes ridicule. Vous croyez que si votre général me plaçait à un poste, il me faudrait le garder, le conserver, et mieux aimer mourir mille fois que de le quitter. Et quand Dieu m'a assigné un poste et une façon de vivre, vous pensez qu'il me faut les abandonner? Voilà un homme qui était vraiment le parent des dieux. Mais nous, nous raisonnons sur nous-mêmes comme si nous n'étions que des estomacs, des intestins, des parties honteuses. Nous avons des craintes et des désirs. Nous flattons ceux qui peuvent quelque chose à l'endroit des uns et des autres, et nous les redoutons en même temps. Quelqu'un me demanda d'écrire pour lui à Rome. Le vulgaire le regardait comme très malheureux. Renommé et riche autrefois, il avait tout perdu depuis, et vivait là où j'étais. Moi, j'écrivis pour lui une lettre très humble. Quand il en eut pris connaissance, il me la rendit en me disant « Je vous demandais de l'aide, et non de la pitié. Il ne m'est rien arrivé de mal. » De même, Rufus, pour m'éprouver, avait coutume de me dire « Il t'arrivera de ton maître ceci ou cela. » « Rien qui ne soit dans la condition de l'homme, lui répondais-je. Et lui alors, qu'irais-je lui demander pour toi quand je puis tirer de toi de telles choses? C'est qu'en effet, ce qu'on peut tirer de soi-même, il est bien inutile et bien sot de le recevoir d'un autre. Quoi, je peux tenir de moi-même la grandeur d'âme et la générosité, et je recevrai de toi des terres, de l'argent, du pouvoir? Ô Dieu ne plaise, je ne méconnaîtrai pas ainsi ce qui est à moi. Mais quand un homme est lâche et vil, que reste-t-il à faire que d'écrire forcément à son sujet comme au sujet d'un mort? Donne-nous le cadavre d'un tel et son sétier de sang. Un tel homme, en effet, est un cadavre, un sétier de sang et rien de plus. S'il était quelque chose de plus, il sentirait bien qu'un homme ne peut être malheureux par un autre.